Spotkania europejskie.
Rozumienie da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le réchauffement de la planète passe par les pôles et d'abord par le pôle Nord. En février dernier, la région a connu un pic de chaleur avec des températures 30 degrés au-dessus des normales saisonnières. Même si le phénomène est exceptionnel, il s'inscrit sur fond de réchauffement de l'Arctique et avec la fonte de la banquise, de nouvelles routes maritimes voient le jour, des champs gaziers et pétroliers deviennent accessibles, les mines d'uranium et les terres rares du Groenland seront bientôt exploitables. En Arctique, l'économie prend le dessus sur les préoccupations écologiques et les appétits grandissent. Outre le Canada, les États-Unis et la Russie, la Chine entend par exemple développer sa route de la soie polaire. Mais l'Arctique est aussi un enjeu pour les Européens. La Norvège est aux avant-postes de cette prochaine passe d'armes géostratégique, tandis que le Groenland, sous tutelle danoise, aspire à devenir indépendant. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour André Gattolin.
Bonjour.
Vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, membre du groupe d'études arctiques Antarctique et Terres australes au Sénat. Barbara Kunz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous avez coordonné l'avant-dernier numéro de Politique étrangère consacré justement à l'Arctique, une exploration stratégique. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Daniel.
Vous êtes chercheur associé à l'Université Paris-Descartes et auteur de la géopolitique de l'Arctique, mais aussi votre dernier livre, La fragmentation du monde. Dans les deux cas, ils ont été publiés chez Economica. Damien Degeorge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant basé en Islande et spécialiste des enjeux européens de l'Arctique. Merci d'être en ligne de Reykjavik. Alors, Thierry Garcin, avant d'entamer notre débat, il serait peut-être bon de définir l'Arctique. Géographiquement parlant, ça commence où et ça s'arrête où? Est-ce qu'on peut dire qu'on est aux confins de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique?
Alors effectivement, la délimitation de l'Arctique obéit à plusieurs définitions. Il y en a une avec la végétation, le passage de la taïga à la toundra qui n'est pas très pertinente. Il y en a une autre délimitation de l'Arctique, c'est avec la ligne isotherme de température au mois de juillet, etc. On n'entre pas dans les détails. C'est une sorte d'immense spaghetti dans tous les sens qui entoure l'Arctique, qui n'a pas grande signification sur le plan géopolitique. Et puis il y a la seule, parce que c'est une ligne abstraite qui est la plus intéressante, c'est le cercle polaire, c'est-à-dire 66 degrés nord, évidemment, puisqu'il y a un cercle polaire antarctique, 66 degrés sud.
Alors quels sont les pays qui peuvent se définir comme appartenant au monde arctique?
Alors il y en a en fait 5. Pour dire, c'est le G5, si vous voulez, 5 riverains.
L'autre G5,
les 5 riverains. Alors dans le désordre, on va prendre évidemment les États-Unis, le Canada, le Danemark, la Norvège et évidemment la Russie, qui elle embrasse ou entoure le cercle, disons l'Arctique, sur pour ses côtes, sur 160 degrés de longitude, c'est-à-dire presque la moitié de la Terre.
Alors pendant des dizaines d'années, Barbara Kunz, l'Arctique est resté figé du fait de la guerre froide, d'une et puis d'une relative stabilité des températures. Ce n'est qu'avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces que la situation géostratégique, économique et bien sûr environnementale a évolué pour devenir mouvante et attirer entre autres bien des convoitises. Alors, si on prend un point de repère, en 20 ans, l'Arctique a perdu 1 600 000 km² de glace. C'est à peu près 3 fois la superficie de la France. C'est considérable. Est-ce qu'on peut dire que la géographie est en train de changer sous nos yeux?
Alors oui, effectivement, la géographie est en train de changer sous nos yeux, ce qui a plusieurs conséquences. Donc, il y a à la fois des revendications territoriales dans l'Arctique qui sont aussi liées à cette disparition de la banquise, qui permettent notamment des explorations scientifiques pour déterminer les territoires des différents pays d'une autre manière que lorsque tout était couvert de glace. La deuxième dimension, ce sont bien sûr les ressources naturelles qu'on pense pouvoir trouver dans cette région, qui sont convoitées par beaucoup d'acteurs, les cinq, mais aussi des puissances externes et bien sûr des entreprises. Mais à tout cela s'ajoute aussi une dimension qui est externe à la région elle-même, ce qui est la dimension géopolitique mondiale et disons le retour de rivalité entre la Russie et l'Occident.
On va bien évidemment y revenir. André Gattolin, la première conséquence, elle est d'abord environnementale. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on a imaginé toutes les conséquences que pourrait avoir ce réchauffement et cette fonte des glaces ou pas encore?
Je pense qu'on est conscient d'une partie des choses qui vont se produire, parce que les travaux du GIEC n'ont cessé d'apporter des éléments supplémentaires, mais on voit d'un rapport du GIEC à l'autre de nouvelles découvertes.
Alors le GIEC, on peut rappeler en deux mots.
Oui, c'est le groupement des scientifiques internationaux qui travaillent sur le climat, qui très majoritairement, à 95% des scientifiques climatologues, disent il y a effectivement une perturbation, un dérèglement climatique qui se traduit par un réchauffement au niveau global de la planète. Il faut être là aussi très prudent parce que, par exemple, on sait que ces changements-là, on parle de la fonte des glaces, mais la fonte des glaces elle-même a des effets sur les courants marins. Et aujourd'hui, on constate de plus en plus que le Gulf Stream perd d'intensité en arrivant, en remontant les côtes européennes. Et on pense qu'à l'horizon de quelques années, le Gulf Stream risque de tourner au sein de l'océan Atlantique assez tôt, c'est-à-dire ne plus réchauffer toutes ces parties que sont la Grande-Bretagne, la Norvège, le Svalbard et les côtes du Groenland et de l'Islande.
Donc, ce qui est paradoxal, c'est que le réchauffement climatique se traduirait par un rafraîchissement des côtes.
Absolument. C'est-à-dire que il n'y a pas un effet uniforme du réchauffement climatique. D'ailleurs, heureusement qu'on a les océans, parce que les océans captent une grande partie du réchauffement, mais on sait notamment dans les zones les plus glacées de la planète, c'est le cas de l'Arctique, de l'Antarctique, mais aussi par exemple du plateau tibétain et de l'Himalaya, que la vitesse, ou en tous les cas le niveau de réchauffement au cours de ces dernières années, est deux fois à deux fois et demi supérieur à celui de la moyenne de la planète. Donc il y a des effets sur les zones froides, mais il y a aussi des effets sur nos océans, nos courants marins, qui sont, et nos courants aériens aussi, avec le jet stream, qui sont les éléments régulateurs et qui fait que notamment l'Europe est une zone tempérée.
Alors évidemment, l'Arctique, on n'en est pas forcément conscient. Évidemment, ça intéresse les Groenlandais, qui sont la principale population. Ça a des effets pour tout un nombre de pays considérables. On les a cités, Thierry Garcin les a cités. Ça a des effets et des enjeux pour l'Europe, mais ça a des conséquences pour le monde tout entier. Et on n'en est pas forcément conscient.
On en est conscient, mais contrairement à l'Antarctique, où il n'y a pas de population sur place, où il y a un traité, le traité de Madrid, qui garantit, encore pour quelques décennies, une zone de paix et de recherche scientifique, on est dans un espace qui est peuplé. On n'est pas sur un continent entouré d'océans, on est sur un océan entouré de continents, avec des acteurs géostratégiques et des conflits historiques de frontières, et pas des moindres, la Russie, les États-Unis, le Canada, la Norvège, et puis cette question effectivement du Groenland qui appartient au royaume du Danemark, mais qui court derrière son indépendance après avoir eu un statut d'autonomie renforcée. Donc on est dans des enjeux, parce que vous parlez de la population du Groenland, mais enfin on considère qu'il y a à peu près 4 millions de personnes qui habitent dans la zone polaire. C'est à la fois pas beaucoup, mais ce n'est pas un désert, et c'est un enjeu de présence et d'implantation pour les grandes puissances qui sont concernés.
Damien De Georges, en théorie, l'Arctique est géré, piloté, je ne sais pas si c'est le bon mot, n'hésitez pas à me reprendre, par un conseil de l'Arctique qui comprend 14 membres, dont 8 États, les États-Unis, le Canada, la Russie et 5 États européens, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège et l'Islande, qui appartiennent ou non à l'Union européenne, et puis 32 observateurs, dont la France. Quel est le poids politique de ce conseil de l'Arctique ?
Alors, c'est un forum qui a été créé en 1996 et qui a pris un poids considérable depuis ces dernières années, avec l'entrée de la Chine et de l'Inde notamment dans ce conseil en tant qu'observateur permanent. C'est devenu en quelque sorte un mini G20.
Alors quel est son domaine de compétence ?
Alors ce sont des décisions par consensus, et il ne peut pas imposer nécessairement aux États. Il y a eu des décisions qui se sont prises de manière contraignante juridiquement. Mais on en entend parler tous les 2 ans environ avec la réunion ministérielle, puisque chaque pays arctique préside le Conseil arctique pendant 2 ans. Actuellement, c'est la Finlande, et à partir de l'an prochain, pour 2 ans, ce sera l'Islande.
Et est-ce que, par exemple, le Conseil de l'Arctique a son mot à dire dans la gestion économique de la région, ou de la préservation des écosystèmes, ou pas du tout, c'est une instance de consultation ?
Oui, on va dire que, à part quelques décisions juridiquement contraignantes, notamment pour le sauvetage en mer et d'autres sujets qui font consensus, parce qu'il y a besoin de coopération dans cette région, Sinon, c'est les États eux-mêmes qui gèrent leurs affaires au sein de leurs frontières.
Thierry Garcin, plus la calotte glaciaire fond et plus elle libère des terres, c'est particulièrement vrai au Groenland. Alors quelles sont les richesses potentielles au Groenland? On parle d'uranium, on parle de zinc, on parle surtout de terres rares qu'on utilise notamment pour les fameux téléphones portables.
Voilà, et donc à peu près 90% des terres rares sont exploitées par la Chine et qui est en situation de monopole pour encore très longtemps et qui fixe le prix qu'elle veut fixer en fonction des circonstances. Alors les terres rares, les richesses de l'Arctique, c'est surtout des hydrocarbures. Alors d'abord, évidemment, il y a du pétrole. On pense qu'il n'y a pas de pétrole au centre de l'Arctique. On pense que s'il y a un jour des réserves prouvées, ce qui n'est pas le cas, de pétrole complémentaire en Arctique, ce sera près des côtes. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, il y a aussi le gaz. Alors le gaz, il faut savoir qu'il se trouve essentiellement à terre pour la Russie. C'est la fameuse presqu'île de Yamal.
On va y revenir.
Et puis, encore une fois, pour les hydrocarbures, l'ancien président, directeur général de Total, il y a quelques années, peut-être vers 2012-2013, avait très bien dit, on arrête toute prospection et toute exploitation du pétrole à haute latitude, car les risques de marée noire ou d'incidents ou d'avaries sont tels qu'on ne va pas salir l'image de Total. Et c'était quelques années après, justement 2010, cette catastrophe dans le golfe du Mexique. Et là, le pétrole était à peut-être 1400 mètres de profondeur, très près de tous les moyens de secours, y compris américains. C'était BP, Deep Water Horizon, et effectivement, il a fallu 6 mois pour mettre un bouchon sur la fuite. C'était dramatique, et ça a coûté une fortune à BP, en dommages et intérêts, ainsi de suite. Donc l'histoire du pétrole est à relativiser beaucoup pour les années à venir. Le US Geological Survey en 2008 avait publié des chiffres, et malheureusement, qui avaient fait florès, et ces chiffres, c'était sur les réserves non prouvées de pétrole. 13% de pétrole, 30% de gaz. Je crois que la question des ressources naturelles en Arctique, l'Eldorado hydrocarbures, on peut, à part le gaz, on peut oublier.
Il y a un décalage entre l'espoir et la réalité.
Et la réalité. Alors, il y a les minerais, effectivement, Damien Dergeorge, je peux en parler plus précisément que moi. Il y a des promesses pour le Groenland. Il y a beaucoup de minerais connus. Et puis, il y a ces terres rares. Mais encore une fois, ces terres rares, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. La Chine est en situation de monopole et elle les vend au monde entier. Et c'est encore une fois pour les richesses en Arctique, il fait nuit une grande partie de l'année, il fait glacial, tous les spécialistes vous diront que les installations mécaniques n'aiment pas travailler par moins 30, comme les hommes, elles nous ressemblent, et que d'autre part, les risques sont considérables. Donc encore une fois, c'est plutôt une terre promise qu'une terre atteinte.
Alors, cette terre promise, elle a un nom. C'est le Groenland. Le Groenland, c'est la deuxième plus grande île
c'est
du monde.
C'est 4 fois grand comme la France.
4 fois grand comme la France, mais peuplée simplement par 55 000 habitants. Alors, j'ai pas calculé densité de population, mais elle est très très faible. La capitale s'appelle Nuuk, il y a 17 000 habitants, avec un statut très original du Groenland, André Gotelin. C'est une possession du Danemark, mais avec une très grande autonomie.
Avec une très grande autonomie. Ils ont d'abord eu, dans les années 80, un statut d'autonomie, puis un statut d'autonomie renforcée. Et par ailleurs, le Groenland, même si le Danemark est membre de l'Union européenne, a choisi de ne pas être membre de l'Union européenne, comme nous avons le cas avec Saint-Barthélemy, d'ailleurs en France. La particularité, c'est que c'est quand même un pays, un tout petit pays, pas en taille, mais en volume de population, qui vit sous respiration artificielle budgétaire du Danemark. C'est-à-dire qu'on considère que plus de la moitié...
Oui, 60%.
Oui, c'est de cet ordre-là. Officiellement, c'est la moitié, sans compter le fait que dès que vous arrivez, vous installez au Groenland, les banques danoises vous proposent des prêts. Alors, la vie est extrêmement chère, parce que il faut...
Tout est importé au minimum du Danemark.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir cette île immense qui fait partie du continent américain, qui a sa zone la plus développée, qui est la côte ouest, donc qui jouxte le Canada, qui vit essentiellement de ses relations avec l'Europe et le Danemark, mais pas que l'Europe, mais aussi la Grande-Bretagne, la France, et pas du tout en relation avec l'Arctique canadien ou québécois.
Alors Damien Dergeorge, il y a eu des élections il y a quelques semaines au Groenland, guerre de bouleversement politique, on va pas faire une émission groenlando-groenlandaise, mais les vainqueurs sont globalement des indépendantistes, plus ou moins modérés. Alors, ces Groenlandais, Damien de Georges, qui jouissent déjà d'une grande autonomie, d'abord depuis 1979, puis avec une accélération de cette autonomie en 2009, est-ce qu'ils peuvent espérer un jour devenir indépendants ?
Alors, il y a deux choses à bien distinguer. Il y a la souveraineté et l'indépendance dans le cas du Groenland. Les Groenlandais souhaitent devenir un État. Mais dire qu'ils peuvent devenir indépendants, ça relève du pur fantasme. Puisque, pour faire simple, actuellement, donc le Groenland est un territoire qui a un potentiel considérable. Et on voit que le développement du Groenland est bloqué littéralement actuellement du fait de l'intérêt de plus en plus clair de la Chine, d'intérêt chinois. Et ça, d'un point de vue sécuritaire, ça pose un problème, puisque, pour faire simple, on va dire que le Groenland est une zone de défense américaine sous souveraineté danoise. Et donc, il est impensable d'avoir une progression claire d'intérêt chinois dans ce contexte. Et c'est là que le bât blesse, pour que le Groenland puisse se développer. D'où l'importance des liens avec l'Union européenne, notamment. Et on va dire qu'un territoire qui fait quatre fois la France pour la population d'une ville comme Chambéry, c'est compliqué pour après gérer des enjeux monétaires, une diplomatie. Je ne parle même pas de la défense, puisque l'Islande voisine n'a pas ses forces armées, elle dépend des États-Unis et de l'OTAN. Et d'ailleurs, dans la coalition de gouvernement qui vient d'être signée au Groenland, ils disent très clairement que si, un Groenland indépendant serait membre de l'OTAN. Donc en gros, c'est réglé pour le côté indépendance, on va dire, d'un Groenland sans armée qui dépendrait d'autres acteurs. Mais ça, c'est pas très bien compris, on va dire, dans le débat groenlandais, pour des raisons purement électoralistes.
Alors, André Catholin, avant d'arriver au terme de cette première partie, pourquoi le Groenland a souhaité s'éloigner de l'Union européenne ? Ils se sentent pas vraiment européens, les Groenlandais. C'est indiscutablement une perte pour l'Europe d'avoir perdu cet immense territoire.
Alors, ils sont d'une certaine manière très sympathiques avec les Européens. Ils ont un souci historique parce qu'ils se considèrent comme une colonie danoise. Ils ont même procédé à une dédanification d'une certaine manière du pays. Donc tous les ministres sont des ministres d'origine inuite, même si toute l'administration est doublée par des cadres d'origine danoise qui assurent la gestion du pays. Je crois que c'est très lié à ce qui s'est produit dans les années 60 et ces années 70, où toute une partie de la population éduquée groenlandaise venait faire ses études à Copenhague. Il y a eu tous les mouvements de contestation qui ont traversé l'Europe à la fin des années 60, et notamment une volonté de dénucléarisation, donc un discours assez dur contre le nucléaire et la présence américaine, la station de Thule, mais des stations aussi nucléaires secrètes.
Alors Thule, c'est une base de l'OTAN au grand nord du Groenland.
Au grand nord, absolument, sur la façade ouest. Et donc ce sentiment anti-nucléaire très fort, anti-européen d'une certaine manière, puisque il y a eu le grand débat sur l'entrée du Danemark qui ne s'est pas fait simplement au sein de l'Union européenne. Et ça a constitué cette base-là. Par ailleurs, une des institutions qui aide le plus aujourd'hui au développement, et notamment au développement éducatif, le Groenland, c'est l'Union européenne, avec un volume d'argent Erasmus qui est considérable. Et moi, c'est une proposition que j'avais faite dans un article et une tribune avec Damien de Georges, c'était de dire finalement, si ça coûte 400 millions d'euros par an, le Groenland, est-ce que d'une certaine manière, l'Union européenne, c'est à peine 0,3-0,2% de son budget annuel, au nom de la préservation de cet espace, en tenant compte bien sûr de la volonté de se développer, donc dans le cadre, dans l'inscription d'un développement durable, pourquoi l'Union européenne ne prendrait pas le relais, je dirais, du Danemark, où les relations sont plus controversées historiquement avec cette grande île et avec la population, et d'une certaine manière rattacher le Groenland à l'ensemble européen pour avoir des enjeux, une présence arctique
réelle. Et quand on est en train de comprendre que ce qui se passe au Groenland et au pôle Nord, pour ne pas dire l'Arctique, bien ça intéresse évidemment cette région du monde, s'intéresse aux Européens et le reste du monde. On va y revenir dans la deuxième partie de l'émission, mais tout de suite on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Scania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Le réchauffement de la planète passe par les pôles et d'abord par le pôle Nord. En février dernier, la région a connu un pic de chaleur avec des températures 30 degrés au-dessus des normales saisonnières. Même si le phénomène est exceptionnel, il s'inscrit sur fond de réchauffement de l'Arctique. Et avec la fonte de la banquise, de nouvelles routes maritimes voient le jour, des champs gaziers et pétroliers deviennent accessibles, les mines d'uranium et les terres rares du Groenland seront bientôt exploitables. En Arctique, l'économie prend le dessus sur des préoccupations écologiques et les appétits grandissent. Outre le Canada, les États-Unis et la Russie, la Chine entend par exemple développer sa route de la soie polaire. Mais l'Arctique est aussi un enjeu pour les Européens. La Norvège est aux avant-postes de cette prochaine passe d'armes géostratégique, tandis que le Groenland, sous tutelle danoise, aspire à devenir indépendant. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. André Gattolin, il est sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine et membre du groupe d'études Arctique, Antarctique et Terres Australes au Sénat. Barbara Kuntz est chercheuse à l'IFRI, l'Institut Français des Relations Internationales. Elle a co-dirigé le dernier numéro de Politique étrangère, l'Arctique, une exploitation stratégique. Thierry Garcin, chercheur associé à l'Université Paris-Descartes et l'auteur de La géopolitique de l'Arctique chez Economica. Et en ligne de Reykjavik, Damien De Georges, consultant basé en Islande. Il est un spécialiste des enjeux européens de l'Arctique. Alors on l'a déjà compris, le Groenland est au centre des intérêts géostratégiques de l'Arctique. De nombreux pays s'intéressent à cette région, les Chinois, les Américains, les Canadiens et bien évidemment la Russie. La Russie qui a une très large côte arctique, plus ou moins tout au long de la Sibérie. Elle entend bien, elle aussi, profiter du réchauffement et de cette nouvelle donne avec notamment un projet gazier gigantesque à 4000 km au nord de Moscou. Il s'appelle Yamal. Les premiers méthaniers ont d'ailleurs quitté le site pour l'Asie-Pacifique. Le français Total participe à hauteur de 20% des 23 milliards d'euros qui ont été investis à Yamal pour construire ce site de production et de liquéfaction du gaz. Pour Vladimir Poutine, qui a inauguré les installations en décembre dernier, il s'agit d'un projet majeur pour la présence de la Russie dans la région.
Ce grand projet a nécessité d'énormes investissements. Il implique également d'autres secteurs de l'économie russe dans sa mise en œuvre. En ce sens, nous pouvons certainement le décrire comme un méga projet. Il est d'une grande importance pour le pays dans son ensemble et constitue une confirmation du statut de la Russie en tant que l'une des plus grandes puissances énergétiques du monde. Le projet Yamal ouvre de nouveaux horizons pour le développement de l'industrie du gaz pour l'économie nationale et crée des emplois de haute technologie, y compris dans le nord et l'extrême ouest de la Russie, où le terminal de transbordement sera situé. C'est en soi un projet qui pose les bases d'un développement efficace et équilibré de l'Arctique et de la route maritime du Nord. Il est également important que ce projet contribue à renforcer la coopération économique avec les pays de la région Asie-Pacifique, y compris les entreprises chinoises. Nous avons aussi établi une coopération internationale réussie avec la France, l'Italie, l'Allemagne et d'autres États européens.
Ce qui rend le projet attractif, Barbara Kuhn, c'est que, avec le réchauffement climatique et la fonte de la banquise, pendant les mois d'été, il est possible de livrer ce gaz russe aux Japonais, aux Chinois et aux Coréens en passant par la route du Nord. C'est un gain de temps et d'argent et c'est en train de changer la donne géostratégique de la région.
Oui, ces développements de Yamal sont tout à fait importants. Les Russes envisagent d'avoir un pourcentage de 20 à 30% de leur production totale provenant
De Yamal
pas forcément seulement de Yamal, mais enfin de pétrole
de
offshore.
La zone.
Donc c'est une part tout à fait importante. Et on voit aussi l'importance de la Chine dans ce contexte, suite aux sanctions que l'Union européenne a décidé contre la Russie à la suite de l'annexion de la Crimée. C'est la Chine qui a pris le relais dans le financement de Yamal à hauteur de plusieurs milliards de dollars, ce qui en fait un acteur tout à fait important dans ce contexte, et donc qui en quelque sorte redessine la carte énergétique européenne dans le Nord, mais aussi de manière plus générale.
Thierry Garcin, la position de la Chine, elle est intéressante parce que la Chine n'est pas un pays arctique, ils ne sont pas frontaliers.
mais ils se sont invités un peu autour de table de Yamal, et puis évidemment ils ont un grand intérêt. Dans un sens, c'est l'énergie qui arrive plus rapidement chez eux, et de l'autre côté, par cette voie maritime qui serait ouverte et libre au moins pendant les mois d'été, c'est les produits chinois qui pourraient arriver plus rapidement en Europe et aux États-Unis.
D'abord, juste un mot, c'était question de la route maritime du Nord qui est historique. Les Russes, d'abord, sont chez eux, ils ont la géographie pour eux, on l'a dit tout à l'heure, ils ont l'histoire, ils ont l'expérience, ils ont les connaissances, ils ont la volonté politique et ils ont les moyens financiers. Ils sont les seuls, d'ailleurs, à avoir et à exploiter des brise-glaces à propulsion nucléaire dans le monde et qui marchent très bien et qui sont en train d'être renouvelés. D'ailleurs, des nouveaux brise-glaces vont être mis à la mer bientôt. Et à propulsion nucléaire, encore une fois, donc grande autonomie, grande puissance et ainsi de suite. Et simplement, c'est une route qui va être relativement subsidiaire pendant encore très longtemps. D'abord, vous l'avez dit, Daniel, deux ou trois mois dans l'année. D'autre part, je regardais les chiffres aujourd'hui, officiels. En 2015, il y a eu en matière de transit, c'est-à-dire d'est en ouest ou d'ouest en est, et il y a eu en matière de transit, en 2015, 16 bâtiments seulement, en 2016, 19 bâtiments, et en 2017, 24 bâtiments, et l'essentiel, c'est du charbon à 75% environ. Donc, je crois qu'il faut...
Il y a une tendance, elle est haussière, mais elle est légère, elle est lente.
Elle n'est pas significative, elle est légère, elle n'est pas significative. En plus, elle est coûteuse financièrement pour les bateaux qui doivent se faire escorter la plupart de brise-glace nucléaire. Donc, la chose importante à retenir, à mon avis, pour la Russie et pour cette route avant de passer à la Chine, c'est le fait que les Russes sont le grand acteur de l'Arctique et pas du tout les États-Unis. C'est les Russes qui sont chez eux en Arctique ou qui se sentent chez eux, à tort ou à raison, avec d'ailleurs des prétentions et des revendications qui sont largement discutables. Mais les Chinois, effectivement, pour eux, c'est une route circumpolaire importante. Attendons peut-être 30 ans, 40 ans, si c'est le cas, la banquise aura disparu quelques mois de l'année, si c'est le cas, et à ce moment-là, la problématique géopolitique sera complètement différente, puisqu'on pourra passer par la route transpolaire, c'est-à-dire, pour simplifier, comme si on traversait l'Arctique par le pôle Nord, c'est-à-dire au milieu de l'Arctique. Donc, pendant quelques mois de l'année, si c'est le cas. Donc là, la position russe sera beaucoup moins intéressante dans les 20-30 ans à venir, encore une fois, dans cette hypothèse d'école, qui est une hypothèse qu'on peut retenir à 50%.
Alors, ce que j'ai lu, et ça, vous allez me dire si c'est crédible ou pas, c'est aujourd'hui, la route polaire, elle est ouverte à peu près 20 jours dans l'année, pendant l'été, à peu près, et que dans les années, alors on est loin, 2080, je sais pas si on peut faire des prévisions assez long terme, il y aurait 150 jours de navigation possible, ce qui évidemment changerait les choses. Mais enfin, 2080, bien malin, qui peut dire ce qui se passera en 2080.
Ça ne nous empêchera pas de proposer une autre émission.
On fera une émission en 2080, on prend rendez-vous.
Je pense que je serai libre. Alors sérieusement, en ce qui concerne la route, encore une fois, russe, c'est une route qui passe le long des côtes, donc qui est quand même plus accessible que la route du Nord-Ouest, la route canadienne, qui, elle, traverse des îles arctiques extrêmement complexes et qui, elle, est beaucoup moins promise à une exploitation régulière, car, encore une fois, le commerce international a besoin de régularité et y compris de précision, notamment pour les conteneurs. Donc la route canadienne, à mon avis, est une route qui est encore plus lointaine dans ses potentialités.
Alors, Damien Dejean, il y a un pays dont on n'a pas cité le nom, quasiment pas, et pourtant c'est le pays où vous êtes en ce moment, à Reykjavik. Ce pays, c'est l'Islande. Alors là encore, un petit pays, 337 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises, qui a connu une indépendance relativement récemment. Qu'est-ce qu'on dit à Reykjavik de ces évolutions du monde arctique? Est-ce qu'on y voit des opportunités possibles? Comment voit-on les choses du côté de Reykjavik?
Alors effectivement, d'un point de vue économique, il y a ce regard-là. Maintenant, il y a aussi un regard environnemental. Il y a aussi un regard sécuritaire, et l'Islande est le seul pays de l'OTAN à ne pas avoir de forces armées.
Il pourrait être rejoint par le Groenland.
Oui, peut-être un jour. Mais en tout cas, on voit un intérêt clair de la Chine. Les Chinois ont un nouvel ambassadeur qui parle islandais. Ils ont un bâtiment d'ambassade qui, à l'échelle de Reykjavik, c'est comme si on disait l'ambassade de Russie à Paris. Donc,
C'est assez important, alors, dans ces conditions.
C'est assez important, voilà. Et puis, il y a un gros lobbying de fait par la Chine. Et en fait, on voit que l'Arctique, d'une manière générale, est le nouveau terrain de jeu dans la compétition Chine-États-Unis. Au fond, la mer de Chine méridionale, c'est l'arrière-cour chinoise. Et l'Arctique, c'est l'arrière-cour américaine. Et l'Islande et le Groenland, c'est un peu l'épicentre de ce match. On le voit d'ailleurs en Islande, les Américains construisent une nouvelle ambassade qui est censée être plus grande que celle de la Chine.
Ah, c'est un concours.
Voilà. Après, sur le plan arctique, c'est vrai que c'est le plus petit État, mais qui s'est joué de son positionnement géographique, qui s'est joué d'un certain nombre d'avantages, et il joue sa carte, et là c'est vrai que ça va être deux années intéressantes avec la présidence du Conseil de l'Arctique.
Il y a une politique arctique de l'Islande, ils ont déjà une ligne directrice, et ils souhaiteraient faire évoluer le Conseil de l'Arctique dans une direction ou dans une autre, ou pas encore?
Alors il y a une politique arctique de l'Islande, qui a été d'ailleurs adoptée à l'unanimité au Parlement. Après, l'Islande avait un moment grincé des dents quand il y avait eu ce club des cinq qui s'était affirmé, donc les cinq États riverains de l'océan Arctique, l'Islande considérant qu'elle est riveraine de l'Arctique, alors certes pas de l'océan Arctique en tant que tel, mais voilà, maintenant ça s'est un petit peu calmé, on en est revenu davantage à un format à 8.
Il y a un pays dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui a pourtant, qui pourrait géostratégiquement avoir une importance. On a parlé des Russes, on a un peu parlé des Chinois. On n'a pas parlé des États-Unis et de Donald Trump. Donald Trump a un avis sur l'article, il s'y intéresse ou pas, Thierry Garcin?
Ça n'engagerait que lui, il aurait le temps d'en changer de toute façon. Et en ce qui concerne les présidents américains d'une façon générale, ça c'est très important pour les questions juridiques concernant l'article. Et tous les présidents américains ont souhaité que le Congrès ratifie le droit de la mer, c'est-à-dire la convention de Montego Bay de 1982 qui régit la mer, en fait, la haute mer. Ça n'a jamais été le cas. Même le président Bush fils l'avait dit. Le président américain aujourd'hui a une vision arctique dans la mesure où il encourage l'exploitation d'hydrocarbures et notamment de pétrole en ouvrant des champs de pétrole, etc. Ce qui, encore une fois, peut être dangereux parce que le jour où il y aura, comme dans le golfe du Mexique, une marée noire, ce sera une catastrophe. Et
d'autant plus grande que le pétrole, c'est évidemment dans des régions arctiques très froides, oui. il s'évacue encore plus difficilement.
Et il se ramollit très difficilement dans les eaux froides, il se désagrège très difficilement. Encore une fois, il fait nuit une très grande partie de l'année, n'oublions jamais ça pour la recherche et le sauvetage. Alors il y a une autre politique américaine qui est reprise par Trump, évidemment, c'est le litige territorial avec le Canada sur le passage du Nord-Ouest, parce que les Canadiens disent, semble-t-il, d'ailleurs ça se discute, c'est mon point de vue, semble-t-il, à juste titre, disent ce seront des zones intérieures lorsqu'il y aura des gels le moment venu. Et en revanche, ce passage du Nord-Ouest qui traverse quand même la partie nord du Canada, les Américains disent non, ce sera un détroit international et ce ne seront pas évidemment les mêmes contraintes en ce qui concerne la circulation commerciale. Donc que ce soit l'utilisation des ressources naturelles, que ce soit le litige avec le Canada, les États-Unis sont fidèles à eux-mêmes. La meilleure politique arctique a été quand même celle d'Obama.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desescales.
Carrefour de l'Europe, l'Arctique, un enjeu pour l'Europe. Nous sommes avec André Gattolin, sénateur à La République En Marche, avec Barbara Kunz, chercheuse à l'IFRI, avec Thierry Garcin, auteur de La géopolitique de l'Arctique chez Economica, et en ligne de Reykjavik avec Damien De Georges, consultant, il est basé en Islande. Alors, André Gattolin, on constate qu'il y a beaucoup de monde et des gens importants, oui, hein, autour de l'Arctique, les Russes, les Américains, les Chinois. Alors, vous l'avez signalé un peu en début d'émission de la première partie, le pôle sud, l'Antarctique, il y a une convention, l'Arctique non. Est-ce que c'est en train de devenir un genre de Far West ou de Far Nord? Je ne sais pas comment on pourrait dire les choses.
Oui, alors on parle d'Eldorado blanc. Moi j'aime beaucoup, il y a un auteur canadien qui s'appelle John English, qui a sorti un très très beau livre il y a 4 ans sur l'histoire de l'Arctique, qui montre que c'est un aller-retour permanent entre des périodes d'enthousiasme, où on va trouver des passages maritimes, on va trouver des richesses formidables, et puis des périodes de désolation, d'échec, parce que c'est un monde extrêmement dur. Même avec un océan arctique qui fond, ça ne veut pas dire que la navigation est simplifiée, parce que les blocs de glace qui circulent ne permettent pas à n'importe quel type de bateau. Alors bien sûr, et l'inquiétude qu'on doit avoir d'ailleurs, elle peut apparaître assez secondaire, mais c'est là où on a le plus de risques en termes de navigation, c'est la navigation touristique. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de gens qui veulent vivre la grande aventure, qui veulent voir ce réchauffement climatique dans des conditions de navigation qui ne sont pas du tout aisés. Et puis, il y a des enjeux géostratégiques. Et là, on se rend compte que tout est lié d'un point de vue planétaire. On parlait de Donald Trump. Je crois pas qu'il ait une vraie vision de l'Arctique, ni même de l'Arctique américain. Sinon, l'exploitation, effectivement, des ressources naturelles, elles avaient été arrêtées sous Obama. Shell, finalement, qui avait eu des licences, a dû se retirer pour exploiter en offshore, donc au nord de l'Alaska. Là, avec la politique moyenne-orientale, demain, on le voit d'ailleurs, la montée du prix du Brent, parce que c'est bien ça le régulateur. Hein, c'est-à-dire que ces dernières années, on s'est un peu calmé sur l'exploitation des ressources pétrolières en haute mer et notamment en zone glacée, simplement parce que le prix du pétrole est-il venu bas? S'il remonte, si au nom d'un discours de l'indépendance énergétique ou du poids, qui pourrait d'ailleurs aussi très bien satisfaire Monsieur Poutine, parce que lui, moins il y a de concurrence dans le Golfe ou en Iran, plus le prix du pétrole et du gaz remonte, et plus il a une chance de s'en sortir économiquement, parce que c'est la Russie aussi, aujourd'hui, ne tient que par l'exploitation et la surexploitation de ces ressources naturelles. Elle peut tenir encore 5-10 ans comme ça, mais si les prix continuent à rester bas, ça va lui coûter extrêmement cher.
Thierry Garcin, je parle sous votre contrôle, mais avec quand même une nouveauté par rapport à il y a une dizaine d'années, c'est le gaz de schiste américain qui fait qu'il y a quand même profusion de pétrole. Voilà.
Les États-Unis sont en train de devenir le premier producteur mondial de pétrole. Bientôt, d'ici vers 2027 environ, le premier exportateur mondial changera la donne. À une condition, c'est que le pétrole de schiste, ça coûte très cher à extraire. Donc ça n'a de sens que si...
Les coûts sont élevés, ou suffisamment élevés.
Voilà, exactement. Alors, si le pétrole n'est pas cher en provenance du Moyen-Orient ou d'autres régions du monde pétrolière, là, ça changera la donne. Donc, et en plus, le pétrole, gaz de schiste, ce sont des pétroles dont les puits sont exploités d'une façon relativement rapide. Donc on fait beaucoup de trous, si vous voulez, dans le sol, et on fore, bien sûr, comme vous le savez, horizontalement ensuite. Pour une chose importante quand même dans la géopolitique, à propos de la question que vous posiez sur les États-Unis et l'Arctique, il y a toujours une constante en ce qui concerne les États-Unis, quels que soient les régimes en place, c'est que les États-Unis n'ont aucun intérêt à mettre en Arctique les enjeux de l'Alliance Atlantique. D'abord, ils sont en délicatesse en Arctique avec le Canada. D'autre part, ils ne veulent pas de débat collectif intra-OTAN sur l'Arctique. Et ça, ce sera une constante très importante pour l'avenir, quel que soit l'avenir d'ailleurs du Groenland ou non dans l'OTAN. Ça, l'OTAN n'est pas la plateforme elle ne sera jamais privilégiée par Washington.
Alors, Barbara Kuntz, on a pu le comprendre, mais sous le pôle Nord, il y a beaucoup de monde, il y a notamment beaucoup de sous-marins et de sous-marins nucléaires. Alors, est-ce que l'Arctique peut être un futur théâtre d'affrontement entre les sous-marins américains qui croisent là-bas, les sous-marins russes, les sous-marins chinois un jour ou l'autre, et puis peut-être aussi des sous-marins britanniques ou français?
Alors, rien n'est exclu, mais je pense qu'il est très important de bien distinguer ces questions qu'on pourrait peut-être qualifier de régionales qu'on vient de discuter, revendications territoriales, ressources naturelles, etc., que les cinq de l'Arctique se sont promis, en 2008 notamment, de résoudre entre eux et de façon pacifique. Donc, et il faut dire aussi que vu le milieu duquel on parle et les enjeux, les cinq ont vraiment intérêt à coopérer sur ces questions de façon pacifique. C'est-à-dire que tout le monde y perd s'il y a un vrai conflit. Après, l'autre dimension, c'est justement le contexte global d'une, on va dire, concurrence entre l'Occident et la Russie. La question de l'OTAN a déjà été évoquée. Et là, on ne peut pas exclure que l'Arctique devienne un théâtre de conflit, pas parce qu'il y a un conflit qui commence dans l'Arctique, mais parce qu'il y a un conflit ailleurs dans le monde qui aura tout de suite des répercussions dans cette région Arctique, sachant que l'Arctique joue un rôle extrêmement important dans la dissuasion nucléaire russe, avec une bonne partie des capacités stratégiques russes basées sur la péninsule de Kola. Les Russes peuvent aussi, grâce à leurs sous-marins nucléaires, tout simplement fermer ce qu'on appelle le passage Gyuk, donc c'est-à-dire Groenland, Islande, Royaume-Uni, ce qui fait que la Norvège se retrouverait derrière les lignes de l'ennemi russe, si on part du principe d'un ennemi russe, et fermer tout simplement la porte au renfort américain américains qui devraient venir en aide aux Européens. Donc il y a tous ces enjeux-là de grande géostratégie très classique qui effectivement font que l'Arctique est un territoire extrêmement important dans un contexte global.
Potentiellement dangereux ?
Potentiellement dangereux, oui. Alors, je pense que vraiment l'hypothèse la plus probable d'un conflit dans l'Arctique, c'est pas du tout une escalade d'un conflit territorial ou de ressources naturelles ou quoi que ce soit dans la région. C'est vraiment dans l'optique d'une grande confrontation internationale opposant les Américains aux Russes, par exemple, où l'Arctique, de par sa position géographique, tout simplement, se retrouve entre les deux.
Il y a un pays dont on n'a pas encore parlé, on l'a à peine mentionné, c'est la Norvège. Alors, la Norvège qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui est membre de l'OTAN, et la Norvège qui a loué, je ne sais pas si c'est le bon mot, une base aux Chinois, une base stratégique ou un point commercial. Qu'en est-il exactement? Qui veut rebondir en Thierry Garcin, André Gattolin, peut-être Damien De Georges?
Après le traité de Versailles en 1920, c'est devenu une zone désinstitutionnalisée. Elle reste sous souveraineté, cette grande île, donc proche du Groenland aussi, très haute latitude. Elle reste un lieu d'installation scientifique. Donc la France y a une base avec les Allemands. Donc les Chinois ont voulu s'investir davantage. Elle a toute légitimité. On ne peut pas refuser à la Chine ou à quelconque État, dans la mesure où il a un projet scientifique, de s'installer au Svalbard. Mais la Norvège est un acteur absolument essentiel qui a longtemps été négligé d'ailleurs par les Européens. Moi je me souviens, j'ai fait ma première intervention sur les enjeux de la Norvège dans l'Arctique européen en 2013, et mes collègues découvraient la puissance de la Norvège, de son fonds souverain qui est alimenté par les ressources pétrolières, parce qu'ils ont une manne, ils ne la dépensent pas, ils pensent qu'ils ont aussi une responsabilité par rapport aux générations futures, ils le placent donc dans un fonds souverain où ils ne tirent que 3% d'intérêt pour alimenter le budget. Ça, c'est une construction à la norvégienne, dans le temps et durable, et de fait, la Norvège est devenue un acteur européen central parce qu'il est membre de la zone Schengen, il est membre d'Europol, d'Eurojust, il est membre de l'espace économique européen, en plus de l'OTAN. Donc c'est quand même un pays qui est sans doute au niveau européen, aujourd'hui peut-être l'acteur européen le plus influent dans la zone.
Mais qui n'est pas membre de l'Union européenne. Alors justement, on a évoqué tous ces pays et on se rend compte que l'Europe est finalement assez peu présente dans cette région du monde. Est-ce qu'elle a une politique? Est-ce qu'elle a des intérêts qu'elle défend pas à pas ou pied à pied ou pas, Thierry Garcin?
Elle s'y est intéressée très récemment, disons en gros à partir de 2007-2008. Puis
c'est
il y a
récent.
Eu un autre train, très récent, un autre train de texte 2011-2012, un autre train que connaît parfaitement bien également le sénateur Gattolin, c'est 2016-2017. Ces textes sont peu disers sur l'Arctique. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle s'intéresse à l'Arctique comme un nouveau théâtre des relations internationales et non pas d'une façon par excroissance, etc. Et d'autre part, il y a une chose qu'il faudra dire pour l'Europe, que c'est si un jour le Groenland devient même nominalement indépendant, de quel droit est-ce qu'on donne à 57 000 personnes le droit à l'indépendance? Pourquoi pas, ça se discute. Et de quel droit est-ce qu'on le refusera à nombre de minorités qui s'estiment telles, spécifiques, au cœur de l'Europe? Et vous savez que l'Europe est en partie, pas vous que je vais le dire, Daniel Desesquel, est en partie rongée par notamment la faillite de l'État de droit, par les revendications régionalistes indépendantistes et qui portent, elles, sur des millions d'individus. Donc là, effectivement, on perdra une façade, dans ce cas-là, une façade via le Danemark, évidemment, une façade arctique, et d'autre part, cela aura des conséquences sur les revendications régionalistes indépendantistes.
Alors, sur ce point-là, le Danemark est très clair. André Gattolin, je pars sous votre contrôle. En cas d'indépendance, on coupe la manne financière.
Oui, alors il faut dire que le Danemark tire aussi une somme qui n'est d'ailleurs pas publique, mais assez importante, de la présence des bases de l'OTAN, notamment à Thule, de la part des Américains. Ça fait partie du jeu de poker monteur sur lequel on a très peu d'informations. Mais le Danemark, oui, se considère vraiment comme un acteur arctique à part entière, un peu négligé par rapport aux autres. Pour autant, au niveau européen, on n'est quand même pas très cohérent, parce qu'on a effectivement notamment des pays qui sont membres de l'Union européenne. La politique arctique, on a commencé à s'y intéresser au niveau de l'Union européenne en 95, quand il y a eu l'entrée simultanée de la Suède et de la Finlande. Et ça ennuyait tellement la Commission qu'ils se sont dit « Oh ben tout ça, c'est un océan, donc on va refiler ça à la direction de la DG Mar, la DG Maritime. » Alors que c'était réduire la question arctique à un espace purement marin.
Ça n'a pas changé depuis ?
C'est toujours, alors il y a maintenant, heureusement, on a eu la création du service européen d'action extérieure qui s'y intéresse. Moi, je me suis beaucoup battu, notamment dans un rapport qui a maintenant un an et demi, suite à la feuille de route de l'Arctique européen, pour qu'on ait une personne au moins au sein du service d'action extérieure en charge des questions arctiques. Donc on a une diplomate belge qui a été nommée l'an passé. C'est l'idée quand même, on s'y intéresse un peu, mais par exemple il n'y a pas de réunion, on a plein de pays membres de l'Union européenne qui sont observateurs comme la France ou l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, la Suisse à présent, même si c'est pas l'Union européenne, du Conseil arctique, mais nous n'avons pas de format propre à l'Union européenne pour en parler. Et on a cette autre difficulté, c'est que l'Union européenne voudrait être membre de droit en tant qu'observateur du Conseil de l'Arctique. Mais dès lors qu'ils arriveront dans cette position, on va dire aux autres pays membres comme la France, qu'est-ce que vous venez faire là-dedans ? Et la France ou l'Allemagne ont une vraie justification, c'est qu'en matière de recherche, mais aussi par exemple de dénucléarisation de toute la zone proche de la, même si la Norvège paye beaucoup de la zone de la presqu'île de Cali, c'est des fonds européens et c'est souvent des fonds nationaux.
Merci, merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Fonceau et la complicité de Thomas Massé. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, RFI.fr ou les applis RFI, notamment la petite dernière RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Paris, à Nouuk, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.